pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ces hors-séries de l'été. Chaque semaine, nous revisitons la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. La semaine dernière, nous étions chez Mark Twain, le père de la littérature américaine. Aujourd'hui, on rentre à la maison avec l'une des plus grandes figures de notre littérature, une icône même, presque un symbole national, une incarnation du 19e siècle aussi, puisqu'il est né en 1802, mort en 1885. Si je vous dis Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, voilà, c'est réglé. Victor Hugo, bien entendu. Pour en parler, j'ai invité Claude Millet, grande spécialiste de l'écrivain. Elle dirige le groupe de recherche sur Victor Hugo à l'Université de Paris. Et Jean-François Kahn, le journaliste bien connu et passionné par la vie et l'œuvre de Victor Hugo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va reprendre par le début, par son enfance dans un instant, mais fausse ouverture d'abord avec vous, Jean-François Kahn, si vous voulez bien. Effectivement, on a beaucoup de figures iconiques de la littérature, particulièrement en France. On a Flaubert, on a Stendhal, on a Camus, Gary, plus tard. Mais pourquoi, Jean-François Kahn, Hugo a-t-il cette place de père presque? C'est l'écrivain par excellence, c'est le concept même de l'écrivain pour beaucoup de gens. Si on dit à un Français, citez-moi un écrivain, paf, c'est Victor Hugo tout de suite. Comment ça se fait?
Oui, parce que d'abord parce que c'est le seul avec Voltaire, et plus que Voltaire, avoir été un romancier, un poète, un homme de théâtre,
oui.
Un peintre, pas un dessinateur, un homme politique, un orateur. C'est-à-dire c'est cette totalité, et j'ajouterais l'amant, parce que ça joue aussi dans le mythe de Victor Hugo. C'est cette totalité qui joue. Parce qu'il faut bien voir que Victor Hugo, on en dira peut-être un mot, mais à la fin de sa... Enfin, en plus, il y a eu l'évolution. Cette évolution extraordinaire d'une droite quasiment extrême à une extrême gauche pour l'époque. C'est que Victor Hugo, à Guernesey, dans son île, ça joue aussi pour le mythe. Je vous signale, il y a deux mythes qui est créé par une île quand même. Et c'est pas hasard. Si Victor Hugo choisit d'aller vivre dans une île, c'est parce qu'il sait que Sainte-Hélène a contribué énormément au mythe de Napoléon. Ah, c'est un calcul.
Ah, c'est à dessein. On va en reparler tout à l'heure de ça.
C'est tout
mais
à fait
en
évident.
Fait, vous nous expliquez que et chacun peut trouver son compte.
Il y a ce mythe de Victor Hugo, 20 ans dans une île, où il est la France, où il est la contre-France. C'est-à-dire, il y a une France officielle et il y a une France non officielle et le monde entier considère en effet qu'il y a deux France. Une France à Paris et une France à Guernesey. Ça, c'est unique dans notre histoire littéraire.
Cette totalité fait que tout le monde peut y trouver son compte, finalement. C'est ça ce que vous nous expliquez aussi. Alors, on reprend par le début. Claude Millet, à quoi ressemble l'enfance de Victor Hugo?
C'est une enfance merveilleuse et abominablement triste. C'est une enfance merveilleuse parce qu'il y a le jardin des Feuillantines, il y a cet espace de liberté à Paris avec des livres ouverts et qui sont... tous les livres de la bibliothèque, la mère des enfants Hugo est une libérale qui leur laisse tout lire. Et il y a cet émerveillement dans le jardin et les premiers contacts avec la poésie, avec le roman, avec ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. C'est une enfance dramatique parce que les parents Hugo forment un couple extrêmement désuni, violemment désuni. Le père est général d'Empire, la mère, elle, est la maîtresse d'un opposant à l'Empire qu'elle cache justement aux Feuillantines. Autant dire que rien ne les destine à mener une vie de conjugale paisible. Et Hugo, ses frères et sa mère vont par deux fois, cependant, tenter d'aller retrouver ce père, qui est d'abord passé en Italie. Partir en Italie et puis ensuite en Espagne. Et l'Italie et l'Espagne, à l'époque, ne sont pas des lieux de villégiature, ce sont des lieux traversés par une violence extrême, ce sont des pays en guerre. Et Hugo, très jeune, est confronté à des spectacles de gibets le long des routes de l'Espagne, qui sont sa première confrontation avec la peine de mort et la mort. Donc il y a une violence extrême et en même temps quelque chose comme un paradis.
L'idée que je m'en fais, mais de loin, vous allez me dire si je me trompe, du Hugo gamin, 12-13 ans, c'est que pour moi c'est un gentil garçon qui fait pas non plus, qui est pas un petit génie comme ça, singe savant, et qui en même temps qui est pas du tout un délinquant, échec scolaire. pour moi c'est un gentil garçon, pas moyen, mais enfin, oui, c'est le gentil gars quoi.
Oui, enfin, il commence à écrire très jeune, et je pense que ils sont complètement atypiques. Ils sont pas dans une transgression affichée, mais ce sont des enfants atypiques pour l'époque, du fait de cette extrême liberté qu'ils ont, et en même temps de ces périodes d'incarcération à l'école, parce que pour Hugo, hein, l'école, la pension, etc., c'est d'abord un lieu de un lieu carcéral, ce que c'était d'ailleurs
à l'époque. D'une certaine manière, oui. Mais il commence effectivement à écrire très jeune. Il est soutenu dans sa démarche, Jean-François Kahn. Quand il écrit, il est pas, on lui rejette pas ses papiers à la figure et sa manuscrit en disant « va travailler tes mathématiques plutôt au lieu de faire tes bêtises ».
Non, mais parce qu'il fait les deux, de toute façon. Il est quand même un bon élève, il écrit. Mais il l'a écrit lui-même sur sa jeunesse, où il dit d'abord... il parle beaucoup du prêtre, un des prêtres qui l'a éduqué.
La rivière, oui.
Alors, il en parle de façon terrible. Parce qu'à la fois, on sait qu'il est fasciné par ce prêtre qui l'a éduqué. À la fois, il dit, il m'a mal éduqué. Il m'a mis dans la tête tous les préjugés, toutes les bêtises. Enfin, là, il est devenu, quand il écrit ça, il est devenu anticlérical. Donc, c'est terrible ce qu'il écrit sur l'éducation de l'Église et du prêtre. Et puis, comme vous l'avez dit, et donc il a un père plutôt républicain à l'origine et une mère royaliste, vraiment royaliste. Et d'après ce qu'il écrit, quelque chose qui l'a frappé, sa mère, c'est elle a sans doute un amant qui est un général de Napoléon, mais qui s'est retourné contre Napoléon, qui est un opposant. Et cet opposant, il va participer à un complot du général Mallet, et il va être fusillé, il va être exécuté. Voilà, et sa mère lui parle de lui. Il est tout petit, il ne sait pas de quoi il s'agit. Elle lui parle de ce général qui va être fusillé. Et on sent que c'est quelque chose qui l'a marqué tout petit, cette allusion par sa mère de ce général qui va être fusillé.
Ce général Lahoury était caché dans le jardin, donc il y avait cet être mystérieux.
C'est
ça, voilà.
C'est déjà un roman.
Et voilà que l'enfant apprend que cet être mystérieux au fond du jardin, protégé par sa mère, va être exécuté par le régime impérial. Donc c'est vrai qu'il y a une confrontation à la violence historique, à la violence politique, très très tôt.
Il écrit quoi
entre
et pourquoi
parenthèses, moi, ce général Lahoury, je ne sais rien de lui à part ce que l'histoire en dit. C'est une parenthèse que je fais, mais j'ai une grande admiration pour le général Mallet, c'est-à-dire le chef du complot qui a essayé... Parce que c'est un type quand même, excusez-moi de cette parenthèse, mais c'est un type qui quand même tout seul, quasiment tout seul, en deux jours, renverse l'Empire. Alors, il ne le renverse pas longtemps, mais il arrive à renverser l'Empire tout seul. Alors, on dit que c'est un fou, mais c'est un fou génial.
Claude Millet, il écrit quoi et pourquoi à cet âge-là, à 14 ans, Victor Hugo?
Alors, il écrit comme les petits collégiens, lycéens font. Il écrit des vers latins, il écrit des traductions de vers latins. Et puis, alors, il s'essaye à tous les genres. Il fait un opéra comique, il fait une tragédie. La tragédie, c'est difficile. Puis bon, c'est un peu lourd. Donc, il va du côté de formes plus légères, comme l'opéra comique. Il écrit des odes, des satires. Il tâte. Ouais. Il essaye. Mais ça va très, très vite, quand même. Ça va très vite.
Il a du talent.
Voilà, il a du talent et...
C'est immédiat ou c'est un besogneux? Il faudra beaucoup de temps pour qu'il arrive à...
Non, ça va très vite, puisqu'à 18 ans, à 16 ans, il est déjà gratifié d'une amarante de l'Académie des Jeux Floraux, qui est une académie importante à l'époque. Et puis, deux ans plus tard, il est maître de cette académie, et c'est lui qui reçoit Chateaubriand, vous vous rendez compte?
Ah ben justement, je ne sais pas à quel âge il dit ça, mais il y a cette fameuse phrase, je ne sais pas si elle est vraie, « Je veux être Chateaubriand ou rien ».
Oui.
Alors, c'est vrai, c'est apocryphe, c'est quoi?
C'est sans doute apocryphe, on ne l'a jamais retrouvé.
Mais ça correspond à l'idée
Ça correspond à quelque chose, mais vous vous rendez compte? Alors ça, c'est à 16 ans, il aurait dit ça à 16 ans, donc en 1818, et en 1820, c'est cette espèce de petit morveux quand même, il a 18 ans. Qui reçoit Chateaubriand en tant que maître de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse. Il a très très vite investi en fait les milieux littéraires.
Il écrit des vers latins, mais vous savez qu'à l'époque, tout le monde écrivait... Rimbaud, on ne s'imagine pas de ça, mais Rimbaud écrit des vers latins. Rimbaud, qui est d'ailleurs absolument fasciné par Victor Hugo quand il est jeune, écrit des vers latins aussi.
Bon, et ensuite, il y aura le théâtre et le roman, la carrière littéraire.
Il écrit un livre très jeune, qui s'appelle Pudjargal. Quel âge il a ?
Oui, il a 18 ans.
18 ans. À 18 ans, il écrit un petit roman. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque... Dans sa jeunesse, il est, on dirait, réactionnaire. Il est vraiment droite extrême. Or, ce roman, écrit à 18 ans, qui est très bien, on peut le lire aujourd'hui. Moi, je sais, mes parents me l'ont fait lire quand j'étais tout jeune. C'est un roman contre l'esclavage.
Et le succès va arriver assez vite, finalement, avec le théâtre et le roman. La carrière littéraire est passionnante, mais Victor Hugo a plusieurs vies. Dans un instant, on fait un détour en politique. Je suis désolé, mais on est obligé. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie.
De retour dans La Voix est libre, consacrée à Victor Hugo. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le Joker qu'on vient d'entendre, joué par Joaquin Phoenix? Il est double. D'abord, le Joker est inspiré en partie de L'homme qui rit de Victor Hugo, le roman de Victor Hugo. Et par ailleurs, le Joker, c'est un film, mais c'est aussi un manifeste politique. Or, Claude Millet, la vie de Victor Hugo a deux faces, mais qui donc s'entremêlent, évidemment. La poésie, le théâtre, la littérature, bien sûr, mais la politique aussi. Comment y entre-t-il ? C'est quoi sa motivation ? Quel est le déclencheur, au fond ? C'est le siècle qui veut ça aussi ?
Alors d'abord, il entre dans la vie adulte à un moment où la littérature et la politique ne sont pas séparables. La littérature a des enjeux politiques énormes. Et d'autre part, on peut rentrer en politique, faire une carrière politique par la littérature. C'est ce qu'essaye de faire et ce qu'a réussi à faire Lamartine à la même époque avec Le Lac. Et Hugo, très tôt, décide qu'il sera un homme politique. Alors, il y a chez lui... Il n'y a jamais eu chez lui la tentation de la vie de bohème, de la marginalité, vous voyez,
de s'isoler comme
non,
ça.
Non, pas du tout. Il y a toujours eu une ambition d'avoir prise sur la société. Et avoir prise sur la société, c'est à la fois écrire de la poésie, écrire des romans qui permettent de la penser, mais c'est aussi avoir prise sur elle par l'action politique. Alors celle-ci viendra quand même assez tard. Elle viendra à partir du moment où, grâce à son élection à l'Académie française, en 1841, il va pouvoir devenir membre de la Chambre des Pairs. Et là, il commence à entrer dans la vie politique à proprement parler. Mais il y a toujours eu l'idée chez Hugo que voyez, ça ne suffit pas de faire de la politique en littérature.
Il faut y aller.
Il faut y aller. Et il y est allé. Hein. Et quand il a été pair de France, il a été député, il a été sénateur. Et à chaque fois, il a toujours été très 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 présent. C'était pas quelqu'un comme Eugène Sue qui venait comme ça un petit peu distraitement à l'Assemblée. C'était quelqu'un qui était là.
Mais ça lui coûte cher et ça lui coûte des exils entre autres. Jean-François Kahn.
Oui, il écrit des œuvres politiques, même quand il est jeune. Quand il est de royaliste, monarchiste, de droite extrême, il écrit des odes qui sont des odes politiques très engagées. Engagées très à droite, mais engagées, on lui reprocherait toute sa vie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'évolution, donc toute la droite, lui, le traitera de traître de toute sa vie. D'autre part, quand il fait de la littérature, quelquefois il fait de la politique, pas forcément consciemment. Parce que Hernani... C'est extraordinaire, Hernani. Hernani, ça tombe à un moment, et ça va être une révolution dans le théâtre, terrible. 1830. En même temps, il y a une révolution dans la musique, avec la Mette de Portici de Aubert. Tout à coup, la musique change complètement. Et en même temps, il y a une révolution politique. C'est-à-dire 1830, révolution littéraire, révolution théâtre, révolution musique, révolution politique, et il est l'homme de ça. Mais le plus étrange, et très récent dans Victor Hugo, vous dites, c'est l'orateur. parce qu'il n'était pas un bon orateur au début. C'était un directeur, un orateur classique, plan-plan, un peu paternaliste. Même le fameux discours sur la misère n'est pas extraordinaire, d'une certaine manière.
Moi, il me fait pleurer, mais bon.
Mais il se trouve, il se trouve que quand il fait le discours sur la misère, il est député de droite. Pas l'oublier, il est député conservateur, dans le camp conservateur. Mais il dit, il faut quand même s'occuper de la misère. Alors, il faut bien voir, il dit, faut s'occuper de la misère, parce que si on ne s'occupe pas, il va y avoir quelque chose de terrible, c'est la révolution. À l'époque, pour lui, c'est l'horreur, la révolution, et pour pas qu'il y ait de révolution, il faut quand même s'attaquer à la misère. Mais la droite ne comprend pas. Son propre camp, les gens qui ont été avec lui, commencent à pas le siffler, mais à murmurer, etc. Et à ce moment-là, il comprend quelque chose. Je lui dis, il n'est pas un très bon orateur, il comprend quelque chose. Il comprend que l'art oratoire au Parlement peut être conçu comme une pièce de théâtre romantique, qu'on peut se servir des interruptions, leur répondre, créer un drame, créer une espèce d'histoire comme ça. Et il va modifier son art oratoire en fonction de ça. Et ça va devenir avec des répliques de théâtre, avec des formules assassines, où il attend. On voit un texte de lui où il écrit sa phrase, et il dit « protestation à droite ». Mais il l'écrit avant. Et il écrit « je m'étonne de ces protestations que je n'attendais pas ». C'est-à-dire, tout est travaillé comme une pièce de théâtre. Et là, ça devient absolument extraordinaire. Là, il devient sans doute un des plus grands orateurs qu'on ait jamais connus.
Et Claude Millet, vous avez commencé par là, mais effectivement, tout est mêlé, bien sûr. Et dans Les Misérables, on retrouve évidemment, alors bien sûr, sur le contexte social, etc., beaucoup de politique, mais même des détails. Thénardier, c'est Thénard qui était un député avec qui Victor Hugo avait une maille à partir. Oui. Il en met plein.
Ah oui, alors, c'est, effectivement, il y a des allusions, mais des allusions de détails comme ça, très circonstanciées, mais il y a surtout, fondamentalement, dans Les Misérables, une espèce d'élaboration d'un grand scénario qui a pour ambition de traiter toutes les catastrophes du XIXe siècle, de faire une espèce de grand récit du ratage du XIXe siècle. Le XIXe siècle, ça, c'est le siècle qui est promis à l'accomplissement du progrès. Et ce que ça donne, quand même, c'est que de l'épouvante. C'est de la misère politique, c'est de la misère sociale. Enfin,
on va parler beaucoup des Misérables dans la prochaine partie, mais il y a des livres quand même plus directement, plus évidemment politiques. Je pense au Dernier jour d'un condamné. Là, c'est un manifeste sur un sujet en particulier politique. Comment il naît, ce livre ?
Il naît sans doute sur les chemins d'Italie et d'Espagne que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Il naît de cette espèce de hantise chez Hugo, de la tête coupée, de l'exécution capitale. Et alors, ce qui est absolument formidable, c'est le fait que Hugo n'élabore pas, si vous voulez, une espèce de récit porté par un discours contre la peine de mort. Ce qui fait, hein, c'est l'option qu'il prend, qui est une option absolument effrayante, c'est de se mettre dans la peau du condamné à mort et de raconter son dernier jour.
C'est ça le génie, quoi.
À travers son récit.
Quand il écrit ça, il est bien à l'époque où il écrit, il est encore de droite, hein. C'est pas le Victor Hugo passé.
Il a quand même sacrément évolué vers le libéralisme. À
oui, c'est ça, c'est une libérale conservateur, mais enfin quand même, c'est contre la peine de mort. Et il écrit un autre livre qui s'appelle Claude Gueux.
Faut dire qu'à l'époque, être contre la peine de mort, c'est quelque chose de...
Il n'est pas le seul. En 1830, il y a eu un grand débat sur la peine de mort.
Le débat n'est pas encore aussi haut que au XXe siècle.
Non.
C'est quelque chose de normal.
Mais il écrit un livre qui s'appelle Claude Gueux, qui est le même genre de livre, où c'est un prisonnier qui est dans la même cellule qu'un autre prisonnier, il est condamné et on les sépare. On les sépare pour le punir. Et c'est en vérité le premier livre, à ma connaissance, qu'on écrit sur l'homosexualité. Hein.
Un des premiers, en tout cas, oui.
Allez, dans un instant, on s'intéresse justement aux Misérables, à Jean Valjean, Cosette et autres Javert que tout le monde connaît. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
S'il te plaît, va donc voir ce qui se passe, Vincent.
Oui, monseigneur. Allez. On vient d'arrêter un voleur, monseigneur, lors d'un contrôle de routine aux portes de la ville. Vous admettrez qu'il a la tête de l'emploi.
Vous reconnaissez votre bien ? C'est à vous, n'est-ce pas ? Il y a vos initiales là-dessus.
Oui, c'est exact, messieurs. Ceci m'appartient. M'appartenait, devrais-je plutôt dire. Pourquoi ne leur avez-vous pas expliqué ?
Expliquer quoi, monseigneur ?
Que je lui avais donné ses couverts.
En effet, oui, c'est ce qu'il prétendait, mais...
Mais quoi ?
Cet individu a un passeport jaune, monseigneur. Il s'agit d'un ancien forçat, et c'est un homme dangereux.
Et c'est la raison pour laquelle vous doutez de sa parole. Et les chandeliers ?
Chandeliers ?
Oui, les deux chandeliers en argent. Je vous les avais donnés aussi, vous ne vous rappelez pas ? Mais ce n'est pas grave, mon brave homme. Nous allons de ce pas les chercher. Enfin, aussitôt que ces messieurs vous auront libéré.
La Voix est libre, spécial Victor Hugo aujourd'hui, avec un extrait de l'adaptation des Misérables avec Gérard Depardieu dans le rôle de Jean Valjean. Et cette scène célébrissime du roman, celle de la scène des chandeliers, je rappelle, Valjean sort du bagne, il y était entré pour avoir volé un pain, il sort donc mais avec un passeport jaune qu'il se doit de présenter partout. Résultat, il est chassé de toutes les auberges. Monseigneur Bienvenu, l'évêque de Digne, lui offre son hospitalité et plus que tout son respect. Mais le lendemain matin, Valjean s'en va en emportant, en volant l'argenterie. Il est ramené par les gendarmes et la suite, vous l'avez entendu. Il y a peu de romans aussi puissants, Claude Millet. Ce qui est fou, c'est que même sans avoir lu Les Misérables, tout le monde sait qui est Cosette, qui est Jean Valjean, qui est Gavroche, etc. Bon, c'est le propre des classiques, mais il y a quand même quelque chose de mystérieux avec ce roman.
Oui, enfin, c'est le propre des classiques, mais il y a quand même un phénomène qui touche pas Corneille ou Racine, qui est le phénomène des produits dérivés, je dirais, de toutes les adaptations. La célébrité de Notre-Dame de Paris et des Misérables, elle tient beaucoup d'abord au XIXe siècle, aux livres illustrés, etc. Mais elle tient aux adaptations théâtrales et ensuite aux adaptations cinématographiques.
Ah, c'est ça ce qui a fait vivre Cosette et Jean Valjean.
Et les adaptations cinématographiques ont diffusé dans le monde entier.
Mais alors, par le relais de. Sans ça, on saurait qui est Valjean et Cosette tellement ils sont devenus.
Oui, parce que c'est.
Des noms communs presque.
Ce sont des noms communs. Parce qu'ils ont quelque chose de tellement simple, de tellement décanté, hein, qui peuvent frapper l'imaginaire de tous. Un mythe, c'est un récit qui arrive à mobiliser une collectivité. Et pour créer un mythe, bien, il faut pouvoir pénétrer l'imaginaire de tous. Voilà. Et Cosette, Jean Valjean, l'histoire de voler un pain. Vous voyez, ça, c'est des choses. On arrive vraiment au rudimentaire de l'expérience humaine. Et du coup, ça touche absolument tout le monde. Mais il y a encore ces relais. Hein, je pense que ça, c'est très important. La comédie musicale, après. Oui. Hein, du cinéma et de la comédie musicale.
Jean-François Kahn, vous avez la même explication ?
Parce qu'un grand écrivain, c'est Dieu.
Oui, un démiurge.
C'est-à-dire qu'il crée des personnages. Je ne sais pas si Dieu existe et qu'il a créé des personnages, mais je suis sûr que Victor Hugo a créé des personnages. Cervantes crée Don Quichotte. Vous êtes capable de dessiner Don Quichotte. La preuve qu'il existe, Don Quichotte, c'est que vous savez comment il est, vous savez comment il est habillé, donc il existe. Robinson Crusoe, il existe, vous savez comment, quel est son chapeau, etc. Eh bien, la même chose, les personnages des Misérables, vous les voyez. Vraiment, Javert, vous le voyez, et le garçon Gavroche, vous le voyez, il existe. Donc il y a un côté divin comme ça dans le grand écrivain. Et alors chez Victor Hugo, c'est multiplié par le fait. Moi, j'ai fait une étude sur les films sur Les Misérables. Vous n'imaginez pas le nombre de films sur Les Misérables. Mmh. En Chine, en Inde, en Russie, partout, en Italie, on a fait des films.
Il y a eu Belmondo aussi, Jean Valjean chez Lelouch.
Oui, c'est pas le meilleur.
Mais il n'y a pas de grande adaptation, d'ailleurs, il n'y a pas de grand film sur Les Misérables.
Et Notre-Dame de Paris, c'est la même chose. Et en effet, vous avez raison, en plus des... Lui-même, d'ailleurs, a fait un opéra comique avec Notre-Dame de Paris. Lui-même a écrit un opéra comique.
Un livret d'opéra,
Avec Notre-Dame de Paris. Et ces pièces de théâtre, on en a fait des opéras. Une grande partie des opéras du fin du 19e, c'est à partir de Victor Hugo. C'est ça qui est formidable. Je voudrais ajouter une chose sur la scène que vous avez passée. C'est que le héros, c'est l'évêque. Il est formidable. Oui. C'est un évêque absolument merveilleux. Et à cette époque, Victor Hugo est passé à l'extrême gauche. Or, Victor Hugo, anticlérical, terrible. Il y a des textes sur l'Église de Victor Hugo, vous n'imaginez pas. Il dépasse Voltaire. En revanche, il est incroyablement croyant. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste croyant. Et là, on le voit. C'est-à-dire, pour lui, cet évêque est quand même, en effet, un personnage.
Mais dans
l'essence personnage.
Du message chrétien, quoi. C'est-à-dire, il ne reste plus que l'amour.
C'est Dieu, c'est, voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire avec ses côtés aussi,
la miséricorde,
qu'il considère qu'il a un rapport direct à Dieu, qu'il n'a pas besoin d'église. Il se fait photographier quand même sur des rochers où il parle avec Dieu. Il y a un côté ridicule aussi dans cet aspect-là, mais c'est ça aussi, Victor Hugo.
Claude Millet.
Il faut en même temps que dans la dernière version des Misérables, quand il reprend les Misérables dans l'exil, il faut qu'il rajoute une scène quand même. Et la scène qu'il rajoute, c'est la scène où l'évêque Myriel se fait bénir par un ancien conventionnel régicide. Voilà. Et là, on voit comment
politique.
Vous voyez les agencements
mais
de
justement,
l'histoire.
Justement, racontez-nous la conception des Misérables, parce que c'est passionnant.
Parce
ça
qu'il
se fait sur un ton.
Il divinise 93 en même temps.
Ça ouais. se fait sur
la
un
révolution,
temps.
De ce point de vue. Le grand moment de la Révolution est divinisé aussi par Victor Hugo.
Ça se fait sur un temps très long, les Misérables. Il l'a pris, il l'a laissé, il l'a repris. Comment ça s'est passé? Au départ, alors, ça s'appelle Les Misères, d'ailleurs.
Ça s'appelle Les Misères. Et au départ, on pense qu'il y a une vision, une chose vue plutôt, hein, quelque chose qu'il a vu dans la rue.
Un bagnard.
Et ce qu'il a vu dans la rue, c'était une femme dans une calèche extrêmement luxueuse, une femme enfouie dans les dentelles et cajolant son bébé lui-même totalement entouré d'étoffes luxueuses. Et regardant cette femme et cet enfant, un misérable. Et ce qui le frappe, c'est la dissymétrie des regards.
Ouais.
Il dit, tant que cet homme, enfin, je cite en substance, hein, mais tant que cet homme regardera cette femme et que cette femme ne regardera pas cette femme, cet homme...
Et c'est formidable, ça.
Une catastrophe est toujours possible. Et donc, il y a
la rencontre avec un bagnard aussi, enfin, avec des bagnards.
Alors,
qui
il y a
sont
la rencontre
le...
avec... Qui
sont
est,
dans la rue, qui marchent comme ça avec leur chaîne.
Voilà. Donc, une proximité, une empathie, mais très profonde, oui. Quelles que soient ses opinions politiques. Vous voyez, il y a toujours eu chez Hugo cette espèce de sensibilité à la misère.
Comment il est reçu par le public, Jean-François Kahn, et par les différentes strates du public ?
Les Misérables ?
Oui.
Alors, il faut bien voir qu'on est sous le régime de Napoléon III, qui n'est pas un régime de grande liberté, et donc il n'y a pas une presse totalement libre. Mais dans l'ensemble, c'est très très mal reçu. C'est-à-dire, les critiques sont d'une violence absolument extraordinaire. D'abord, c'est ressenti, alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est sur le plan social, ça apparaît comme un livre sympathiquement réformiste, je dirais. Hein,
oui, c'est ce que vous dites. Oui, moi,
humaniste, enfin
pas
bon.
Sûr.
Mais enfin, c'est ressenti comme une œuvre subversive, remettant en cause totalement la société. Même Lamartine, qui est quand même un des hommes de la Révolution de 1848, est déchaîné. Pour lui, c'est une œuvre absolument dangereuse, subversive. Sainte-Beuve, n'en parlons pas. Enfin, ils sont dans l'ensemble. La réaction est une réaction indignée devant une œuvre qu'ils considèrent comme dangereuse pour l'équilibre social.
En fait, je vous posais la question parce qu'un jour, Jean-François Kahn, vous m'avez raconté qu'à la sortie des Misérables, il y avait des lectures. Dans les usines, dans les ateliers.
Il y a un rapport de police qui dit ça. Et d'ailleurs, Sainte-Beuve y fait allusion. C'est-à-dire, il dit que c'est très dangereux la façon dont est accueilli les Misérables. Parce qu'en revanche, ça marche tout de suite. Hein. C'est un succès tout de suite. Et ils disent, dans des entreprises, dans des ateliers, des ouvriers qui savent lire lisent des extraits des Misérables aux ouvriers qui ne savent pas lire et ils pleurent.
Il a cette proximité, Claude Millet, Victor Hugo, quand même, avec... Justement, les ouvriers, c'était pour eux qu'il écrivait ?
Oui, alors c'est une proximité conquise, hein, parce que en 1848, quand il commence sa carrière politique, il rencontre des ouvriers de son quartier, qui est le quartier de la place des Vosges, qui lui disent qu'ils ne veulent pas de lui comme représentant du peuple et qu'ils connaissent ses airs d'aristocrate.
Ah oui.
On les connaît bien. C'est un grand bourgeois, Hugo, dans sa posture.
Mais quand même, quand un type le met en joue, un des ouvriers à côté abaisse le fusil et lui dit « on ne tire pas sur le héros » ou je ne sais pas quoi, « on ne tire pas sur les grands hommes ».
Oui, enfin, mais il y a quand même... l'exil le change beaucoup de ce point de vue.
Bon, c'est un roman total, génial. On ne va pas faire l'article des Misérables quand même. Il faut lire et puis c'est tout. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La Voix est libre continue, émission spéciale Victor Hugo aujourd'hui avec Jean-François Kahn, le journaliste passionné de Victor Hugo, et Claude Millet, grande spécialiste de l'auteur. C'est la dernière partie consacré donc à Victor Hugo, et donc on va parler, ben c'est comme ça, de sa mort. Mais avant de parler de la sienne, Jean-François Kahn, je voudrais que vous nous parliez de la mort de Léopoldine, sa fille. C'est un épisode déchirant de la vie de Victor Hugo.
Oui, mais il n'y a rien. Enfin, voilà, il écrit un poème splendide d'ailleurs. Il écrit plusieurs poèmes splendides d'ailleurs, parce que Demain des Laubes aussi, c'est pas.
Mais racontez-nous.
Non, c'est elle est à Villequier, elle va faire du bateau avec son mari, je crois, non ? Et le bateau sombre et elle coule, elle meurt, il y a pas voilà. Mais c'est pour lui quelque chose d'absolument déchirant qui vont lui faire exprimer des choses très profondément déchirantes.
Claude Millet, il y a une bifurcation dans sa vie à ce moment-là quand même.
Ben voilà, par exemple, l'écriture souterraine des Misérables, mais il écrit plus, hein, il est bloqué dans une espèce de deuil qui est pas dépassable, et une espèce de pataugement comme ça du goût de la fin des années 40 s'explique beaucoup par ce deuil-là. Mais alors, ce qui se passe ensuite, et voilà, on revient à cette espèce de monstre de la littérature qui crée du mythe. Mais qui s'auto-mythifie aussi. Hein. Il y a le coup des contemplations, avec au cœur des contemplations, ce grand recueil du début de l'exil, une série d'élégies dédiées à Léopoldine. Mmh. Alors qu'il n'a pratiquement jamais fait d'élégie avant, alors que l'élégie est passée de mode, tout à coup, au moment où elle est devenue désuète,
il en fait quelque chose.
Il en fait quelque chose. Et il en fait quoi ? Il en fait la dimension intime, privée et malheureuse de sa figure de poète triomphant. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est presque le système, enfin, qui est le système de la célébrité d'aujourd'hui. Vous savez, avec, dans Gala, par exemple, tous les malheurs des hommes publics qui sont étalés au grand jour et qui suscitent de l'attachement du public.
C'est du marketing personnel, presque.
Ben, on pourrait presque l'analyser comme ça. Alors, bien sûr que non, parce que si c'était que du marketing, ça serait pas aussi bon.
Voilà. Hein.
Mais en même temps, c'est ça qu'il réussit à faire. Parce que quand vous demandez à quelqu'un dans la rue Victor Hugo, il dit peut-être Les Misérables et Notre-Dame de Paris, mais il dit d'abord Léopoldine.
Et c'est une période aussi où c'est la mode du spiritisme. Et Victor Hugo va se tourner vers ça, vers la quête des esprits, comme ça, alors qu'il n'y croyait pas du tout. Il cherche absolument, par tous les moyens, un contact avec Léopoldine, ou alors je me fais complètement avoir par le mythe, Claude Millet.
Pas du tout, vous ne faites pas avoir par le mythe, mais c'est de l'histoire, en fait. C'est de l'histoire. Guillaume Cuchet, hein, l'historien Guillaume Cuchet, a récemment écrit un très beau livre sur le spiritisme, qui fait bien comprendre le phénomène. Alors, c'est une mode mondaine, c'est un divertissement de salon, mais c'est aussi une consolation pour tous les républicains vaincus. Et c'est aussi une manière, à la fois dans certains milieux ouvriers, et puis dans la petite bourgeoisie intellectuelle, et puis dans les élites, c'est très 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 diffusé, une manière de réconcilier une aspiration spirituelle et un idéal de progrès scientifique. C'est-à-dire qu'on est dans le paranormal, et un paranormal qui va s'expliquer par la science. Et Hugo parle de religion-science.
Hein, il fait des comptes rendus de ses séances de spiritisme.
Alors, ils sont, c'est la tribu, Hugo. Hein, c'est les participants à ces séances qui vont tour à tour noter ces procès-verbaux des tables. Et Hugo est d'abord extrêmement sceptique, et puis se laisse happer le jour où Léopoldine apparaît.
Mais
Jean-François.
Je crois que c'est obsessionnel chez lui, ce rapport au supranormal. Dans ses carnets, on voit sans arrêt, il y a des fantômes qui arrivent, on frappe, des coups, etc. Enfin, c'est sans arrêt, tout le temps. En revanche, l'épisode des tables tournantes, là, c'est à Guernesey, donc, en exil. C'est quand même en même temps une énorme arnaque. Et puis c'est ridicule, parce qu'il y a le côté émouvant, à savoir que c'est le rapport avec sa fille, mais il y a le côté ridicule. Il y a Shakespeare quand même qui lui apparaît, qui vient, qui lui dit « Victor Hugo, c'est vous qui êtes mon successeur, vous êtes seul digne de moi aujourd'hui dans la littérature. » Et il précise, d'ailleurs il parle en français, parce que l'anglais est une langue abominable, donc Shakespeare préfère me parler en français. Il y a des choses absolument ridicules là-dedans. Et oui, là, il y a un mort... Ça tourne mal, il y a un mort, ils arrêtent parce qu'ils savent que c'est une blague.
Mais pour lui, ça marche quand même.
Pour lui, il y avait une part de crédibilité dans la chose.
Et justement, Jean-François Kahn, sa mort à lui, lui fait passer aussi à un nouveau statut. C'est-à-dire que là, il devient définitivement un emblème national. Vous nous racontez ses funérailles ?
Non, il y a deux aspects. Il y a ces funérailles, je ne sais pas, 2 millions de personnes, on ne sait pas, on ne compte pas, mais une foule absolument énorme. On n'avait jamais vu ça, 2 millions de personnes. Mais il faut quand même bien voir une chose, il faut bien comprendre. Quand Victor Hugo, écrivain, écrit des œuvres politiques, on l'a dit tout à l'heure, bon, après 51, Victor Hugo se considère d'abord comme un politique. Enfin, il n'emploierait pas le mot politique, c'est plus que ça. Comme un prophète de la cause républicaine et de la cause démocratique. Il est d'abord ça. Et il considère que son œuvre littéraire, que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, c'est au service de son combat. Il faut bien comprendre ça, qu'il y a une bascule à ce moment-là. Et donc, son enterrement, c'est plus que l'enterrement d'un poète ou d'un dramaturge. C'est d'un prophète de la Révolution, d'un prophète de la démocratie, d'un prophète de la République. Alors, il y a deux aspects. Il y a cet aspect-là. Alors, il y a un autre aspect qui a été occulté très longtemps. Et moi, je trouve que c'est formidable. Étant donné ce qu'était Victor Hugo, c'est que d'abord, on croit, quand on avait tout fait pour que le peuple ne vienne pas. C'est-à-dire que ça ne passe pas dans les quartiers populaires, que c'est bon, ça n'a pas un jour férié, etc. Mmh. En vérité, le peuple vient, mais pas du tout en habit de deuil. Il vient avec des paniers, avec des saucisses, du vin, ils se mettent par terre, c'est incroyable. Ouais. Ça devient une bacchanale à la Bruegel, etc. Or, il se trouve. Que les prostituées aimaient beaucoup Victor Hugo à cause du personnage de Fantine. Il y avait une, bon. Et donc beaucoup sont venus parce qu'elles aimaient ce grand homme. Et que par une espèce d'élan,
Fantine elles qui se sont offertes
gratuitement pour célébrer ce grand homme. Et que ça a provoqué une espèce de phénomène en boucle. Ouais. Et que c'est vrai qu'à la fin, ça a fini. On s'est mis à faire l'amour partout, dans tous les coins et tout. Mais en même temps, tout ça, la bouffe, le vin, la baise, etc. Mais c'était Victor Hugo. Mmh. C'était vraiment c'était la sensualité totale de Victor Hugo. Je trouve que c'est un hommage inouï en même temps. Et alors, c'est parmi ceux qui n'y viennent pas, il y a toute la droite religieuse, réactionnaire, mais par ceux qui ne veulent pas y venir, il y a la début de la gauche marxiste.
Ah oui, ceux qui n'y sont pas, ça a une importance aussi.
I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid.
Vous avez peut-être connu l'extrait des Misérables version comédie musicale. Juste un dernier mot pour finir cette émission, Claude Millet. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de toutes ces comédies musicales, de toutes ces adaptations, les produits dérivés, comme vous disiez en début d'émission? Il aurait aimé ça, non? C'était un peu... Paris gagné, non?
Alors je pense que ce qu'il aurait détesté, c'est que Walt Disney transforme le prêtre Claude Frollo en médecin. Mmh. Voilà, parce que la dimension anticléricale de Notre-Dame de Paris est complètement écrabouillée, du coup. Et ça, il n'aurait pas été content. À part ça, dans le journal de Juliette Drouet, lorsqu'ils sont en voyage en 1843, au moment de la mort de Léopoldine, ils rentrent dans une auberge dans les Pyrénées, et il y a comme décoration une fresque qui représente, sans doute de manière très maladroite, Notre-Dame de Paris. Ils sont tous les deux formidablement heureux. Voilà. Et le fait que cette œuvre puisse se diffuser par tous les moyens... C'est quelqu'un de généreux, donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui aurait craché dans cette soupe-là.
Merci beaucoup Claude Millet. Je rappelle au passage le titre de l'un de vos livres, Le romantisme, disponible en version poche. Et Jean-François Kahn, merci beaucoup. On peut lire Droit dans le mur, votre dernier livre chez Plon, et votre biographie de Victor Hugo qui s'intitule, c'était facile, Victor Hugo, chez Pluriel. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, encore des livres, on retrouve les libraires de l'émission. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1,
la voie est libre.
Il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies, à l'heure d'été, donc sujet libre. Aujourd'hui, pour nous présenter un coup de cœur, donc sujet libre, j'ai dit, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être un vieux classique, ça peut être une nouveauté aussi. Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre, et Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Nicolas.
Eh bien, on commence par vous, Thibaut. Qu'est-ce que vous nous avez amené ?
Eh bien, de la fantaisie aujourd'hui, avec le cycle d'Alain Mender de Alexis Flamand. C'est aux éditions Léa. C'est en trois tomes. Je vous parlais d'abord du premier, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et il s'appelle La Porte des Abysses. C'est une histoire très particulière. C'est l'histoire d'un magicien qui s'appelle Jonas Alain Mender, qui est en fait un enquêteur magique. C'est-à-dire que sa magie ne l'utilise pas pour se battre, mais pour résoudre des crimes à caractère magique. Il est tranquille chez lui dans sa petite maison très rustique lorsque des soldats du pays voisin arrivent et disent « Bah, maintenant, ta maison nous appartient. » Alors non, c'est pas possible, c'est la mienne. Donc voilà. Après quelques petites embrouilles très rigolotes, parce que ce livre est très drôle, il décide d'aller voir le roi ennemi, du coup, et lui dire « Bah... faites ce que vous voulez de mon pays, mais laissez ma maison tranquille. » C'est ça, c'est vraiment ça en gros. Et donc il y va et le roi lui dit « Écoute, je veux bien à condition que tu m'aides à résoudre une affaire. Et il y a eu un meurtre et je veux savoir s'il y a eu crime magique. » Et donc forcément, oui, il y a crime magique. Mais alors, lequel ? Je vous laisserai le découvrir. Et en fait, c'est une enquête de 500 pages à caractère magique où si vous n'avez pas d'imagination, ça ne sert à rien de lire ce livre. Très honnêtement,
parce qu'il décrit pas tout, parce que
quoi. Si, mais en fait, il a tout inventé. Vous repartez de zéro, c'est-à-dire que tout ce que vous avez lu en fantasy avant, eh ben, ça ne vous servira à rien, parce que les monstres, il les fait, la magie, il l'a fait lui-même, les voyages, tous les personnages, même les endroits où il va, il a tout recréé à l'intérieur, des sociétés complètes, des architectures monumentales. Pour exemple, l'architecture du roi en question. De son château immense. Il a à peu près 500 ans ou 600 ans d'âge, mais chaque roi a voulu le faire à sa manière. C'est-à-dire que le premier a fait un petit château normal, puis le deuxième a rajouté un peu un château par-dessus, et puis un autre, et puis un autre. Donc ça donne une architecture hyper labyrinthique, et quand vous vous perdez dans les couloirs, vous êtes vraiment perdu. Mais c'est hyper bien fait, c'est très clair, finalement, quand on se plonge vraiment là-dedans. Et c'est surtout qu'il arrive à mettre des pointes d'humour. Mais vraiment, je me suis esclaffé en lisant, ce qui arrive très peu même. Ouais. Je me suis esclaffé en lisant, en me disant, mais le salaud, il est fort. Et ouais, il est très fort. C'est de la très, très bonne fantaisie. C'est très bien écrit. C'est fun. On sent que le gars, il s'amuse. Et les trois tomes sont très différents les uns des autres, alors que pourtant, il y a vraiment une suite dans les trois. Ça marche très bien. C'est un vrai plaisir. J'ai déjà conseillé à plusieurs fans de fantaisie qui sont revenus quelques jours après prendre les deux tomes parce qu'ils avaient été très pris par l'histoire. Et,
L'auteur, c'est...
C'est Alexis Flamand.
Le cycle d'Alain Mender aux éditions
Léa.
Léa. C'est vieux ce truc-là ?
On est quoi en 2020 ? Ça a 3-4 ans ?
D'accord. Ouais. Pauline Carayon, on continue à s'esclaffer avec vous, si j'ai bien compris. C'est Fab Caro, vous.
Fab Caro, tout à fait, le tome 2 d'Open Bar. Bon, moi, je suis une fan de Fab Caro, bien sûr, depuis Zaï Zaï Zaï. Et là, eh bien, on va dire que Fab Caro continue à pulvériser, on va dire, les absurdités du quotidien, que ce soit les enfants qui jouent mal à l'occasion de la kermesse, que ce soit aussi un scénariste qui décide de raconter une histoire où tout se passe bien. Et là, son producteur lui dit « Mais ça, c'est une prise de risque, allez-y !» Ou alors une jeune fille, une ado, qui demande à sa maman « Bah alors maman, est-ce que je peux aller à l'appartout ce soir ?»« Bah, vas-y ma chérie, mais tu rentres à minuit 30, moi aussi j'ai connu ça !» Bon bref, ça c'est toujours quand même... voilà, ou alors il pulvérise aussi les nouvelles, on va dire, pas les nouvelles fonctions, mais les nouveaux statuts, on va dire. Par exemple, le manager conseil, bon, là il en prend plein.
Je sais pas ce que c'est, mais...
Ben voilà, justement, manager conseil, qui est censé, j'imagine, conseiller au mieux une équipe en rationalisant, la portée de l'action. Voilà, c'est quelque chose de très vide. Je
crois que c'est un peu ça. Open bar numéro 2.
Open bar numéro 2, ouais.
Je vais le lire. Moi, je connais Zaï 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 et le discours.
Et le discours, oui.
Et il revient à la rentrée, Fab Caro, chez Gallimard, avec un livre qui s'appelle Broadway, un roman.
Un roman ?
On va suivre ça. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve ces livres, notamment chez Thibaut Raden à la librairie L'Écriture de Vaucresson. Et merci beaucoup, Pauline Carillon. Dans un instant, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande.
Il était une fois.
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 Il est l'heure de retrouver le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Ah bah c'est un autre Victor aujourd'hui. Vous allez... C'est pour ça, ça vous a bien plu.
Ah oui, là je me suis adapté.
Vous avez encore fait l'effort de trouver un livre qui correspond au thème du jour, c'est magnifique. Vous avez déniché en l'occurrence une mini-biographie pour les plus jeunes, c'est ça?
Oui, c'est une fantastique manière de faire découvrir des auteurs aux plus petits via leur histoire. Alors c'est un tout petit livre qui retrace donc la vie de Victor Hugo. On le voit d'abord jeune garçon, plongé dans les livres pour oublier le divorce de ses parents, l'absence de son père... Il vit dans une pension et pour tuer l'ennui, il commence à écrire en cachette la nuit dans le dortoir. Et à 14 ans, Victor Hugo a cette phrase assez géniale, il dit « Je serai Chateaubriand ou rien ». Sa vie est donc séquencée ensuite en chapitres. Après l'enfance, suivent son mariage avec la belle Adèle Fouché, sa participation à la naissance du romantisme, son coup de foudre pour l'actrice Juliette Drouet.
Tout est expliqué rapidement, mais on n'oublie rien ?
Non, on n'oublie rien du tout, comme son combat par exemple contre la peine de mort. Léon vous lit justement un extrait sur l'engagement politique de Victor Hugo.
Victor Hugo utilise sa plume comme une arme. En écrivant des histoires, on peut critiquer et dénoncer, on fait de la politique. Et ce qui révolte le plus notre homme, c'est la peine de mort. Tuer un criminel, c'est s'abaisser à son niveau. Il écrit en 1829 le dernier jour d'un condamné qui raconte le ressenti d'un homme avant la pendaison. En 1848, Victor Hugo prononce un discours contre la peine de mort à l'Assemblée nationale qui restera dans les annales.
Suivent la disparition de sa fille Léopoldine, ses années d'exil à Jersey, Guernesey. Absolument rien n'est oublié.
Et à partir de quel âge on peut lire ce livre ? Alors c'est une biographie quand même.
Oui, c'est une vraie biographie, mais on peut lire sans problème à partir de 5 ans.
Ah oui.
Mais il n'y a que l'essentiel, vraiment.
Oui,
c'est suffisant à cet âge-là. Les enfants adorent. À la fin du livre, il y a une carte pour situer les endroits importants de la vie de Victor Hugo, des petits jeux où il faut retrouver l'écrivain dans Paris. Il y a même un petit jeu des 7 erreurs, un petit quiz. Bref, c'est un très très bon moyen de découvrir qui était Victor Hugo. Et ensuite, c'est aux parents de bien accompagner l'enfant sur des notions moins évidentes, comme, on vient d'en parler, la peine de mort, l'exil. Mais rassurez-vous, ils comprennent beaucoup plus vite que vous ne pensez et ils ne se gêneront surtout pas pour vous poser beaucoup, beaucoup de questions.
Ah oui, mais il y en a plein d'autres. Là, je vois derrière, là, sur la quatrième de couverture, il y a Napoléon, il y a Lincoln, il y a Sissi, il y a Van Gogh, il y a Billy the Kid, Picasso, Einstein.
Oui, c'est une très très belle collection et effectivement, on peut découvrir beaucoup d'auteurs et beaucoup de personnages historiques.
On rappelle le titre, Fastoche, Victor Hugo, et c'est chez... Quelle histoire édition.
Exactement.
Merci Victor.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la fin de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Autre ambiance. À la semaine prochaine.